6-9 de l'été sur France Inter.
Les vacances ne sont pas terminées, mais pour beaucoup, elles s'achèvent avec la fin du week-end du 15 août. Cette année, la France a connu une légère hausse de fréquentation au mois de juillet, plus 3%. Les Français ont privilégié les destinations bretonnes, normandes ou encore la montagne. Il y a moins de touristes en Méditerranée. On fera le compte, bien sûr, à la fin de l'été, mais intéressons-nous ce matin aux touristes. Bonjour Saskia Cousin.
Bonjour.
Saskia Cousin, anthropologue, maître de conférence à l'Université Paris-Descartes, spécialiste du tourisme. Vous êtes notamment l'auteur de Sociologie du tourisme. Les chiffres que je viens de donner, Saskia Cousin, sont ceux d'un cabinet pro-tourisme. Est-ce qu'ils reflètent le tourisme tel que vous, vous l'étudiez ?
Alors, moi, j'étudie le tourisme en tant qu'anthropologue, ethnologue, donc c'est un travail plutôt qualitatif. Donc, je fais pas des travaux quantitatifs, mais on sait dans les observations qu'effectivement, il y a un retour vers les plages du Nord, vers le Nord. Maintenant, il y a d'autres cabinets qui disent l'inverse. Voilà. Donc, en termes de prévision, il y a ce qu'on annonce, et puis on va savoir statistiquement plus précisément dans les mois à venir. Après, il y a la façon dont l'on compte, et donc les cabinets, les agences, les collectivités locales, l'Organisation mondiale du tourisme ont chacun leur manière de compter. Les cabinets peuvent prendre par exemple l'hébergement non marchand, ce qui est intéressant, ce que ne font pas beaucoup d'enquêtes, notamment...
L'hébergement non marchand, c'est quand on va dans sa famille, par exemple.
Voilà. La moitié des Français qui partent en vacances en France vont dans de l'hébergement non marchand, c'est-à-dire la famille, les amis, et on voit un retour aussi à des vacances où on va aller d'ami en ami, en famille. C'est pas que ça n'avait pas lieu avant, c'est que c'est plus valorisé maintenant. Il y a toujours eu des gens qui partent en vacances en
Et pourquoi c'est plus valorisé maintenant ?
Je pense que il y a des considérations écologiques qui rentrent en compte. Encore une fois, la plupart des Français, 80% des Français partent en vacances en France. Hein, ça change assez peu selon les années, mais c'était valorisant de dire qu'on était parti à l'étranger. Donc structurellement, on peut pas, sociologiquement, statistiquement, c'est pas que les choses changent tant que ça. C'est que pour certaines catégories sociales, c'est plus valorisant aujourd'hui de dire qu'on est parti en France, qu'on est parti en Normandie, qu'on est parti chez des amis ou dans la famille, que ça pouvait l'être il y a quelques années, notamment pour des raisons écologiques.
Vous parlez des raisons écologiques, elles influent vraiment maintenant sur le comportement de la personne qui part ?
Je pense qu'elles influent sur les discours, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Encore une fois, si on regarde les gens qui partent, ceux qui ont le moins de discours écologiques sont ceux finalement qui ont les pratiques les plus écologiques, parce qu'en fait, on va dire les classes sociales populaires qui vont partir en France, dans la famille, dans des campings, qui ne vont pas prendre l'avion en fait, et vont pas avoir un discours pour ou contre, mais on va avoir des pratiques qui effectivement, justement parce qu'ils prennent pas l'avion et qu'ils restent en Europe et en France, vont être plus écologiques. Ce qui change, c'est le discours de certaines catégories sociales qui prenaient beaucoup l'avion. Ça ne veut pas dire qu'elles prennent moins l'avion, ça veut dire qu'elles vont mettre en avant d'autres pratiques que celles de prendre l'avion.
On n'est pas encore rentré dans la tendance, ce mouvement suédois qui dit « prendre l'avion, c'est la honte ». On n'est pas encore totalement rentré dans ce phénomène-là.
On n'est pas rentré là-dedans, et les Suédois, par exemple, font partie, c'est un des peuples d'Europe qui prennent le plus l'avion.
Donc
il faut toujours se rappeler qu'il y a toujours une marge, une différence entre la réalité des pratiques et les discours.
Vous parliez des classes populaires et des classes plus aisées. Est-ce que le tourisme, c'est toujours une affaire de distinction ? Je pars et pas toi ?
Ça a toujours été dès le départ une affaire de distinction, mais ça dépend si on met les vacances dedans ou pas.
C'est-à-dire, parce que tourisme et vacances, c'est pas la même chose.
Et tourisme et vacances, c'est pas la même chose. Pour les statistiques, notamment l'Organisation mondiale du tourisme, les vacances sont un élément du tourisme, parce que ce qui compte, c'est des arrivées internationales dans des aéroports. Donc ce que vous faites, le temps que vous restez, etc., a peu d'importance. Pour un sociologue, pour un ethnologue, c'est l'inverse. Ce que disait Jean Dudurement, on a d'abord des loisirs. Dans ces loisirs, il y a un petit temps qu'on va passer en vacances, et dans ce temps de vacances, congé payé notamment, on va partir, et dans ce temps de vacances où on est posé quelque part, on va avoir des activités touristiques. Donc les activités touristiques sont un petit moment du temps des vacances et du temps de loisirs. Et donc ces activités touristiques, c'est un peu ce qu'on raconte. En tout cas, c'est ce qu'on racontait jusqu'ici, ce qui nous permettait de nous distinguer plus que les 3 semaines sur un camping à Palavas-les-Flots. Ce qui change un peu cette année, il me semble, c'est que pour certaines catégories, le fait de dire, de revendiquer, de ne rien faire, de se poser, de faire le tour des amis, d'aller dans un camping, devient quelque chose qui est dissible.
C'est-à-dire ?
Eh ben, on peut se vanter des gens qui font partie, on va dire, des classes sociales intermédiaires peuvent se vanter de n'avoir rien fait en vacances. Ce qui est et d'être resté en France. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il fallait avoir été visiter des musées ou avoir fait du tourisme culturel à l'autre bout de la planète, etc. Donc ce qu'on est en train d'observer, c'est plutôt un changement des imaginaires des classes sociales qui ont le choix. Parce qu'il faut savoir que plein de gens n'ont pas le choix. 40% des gens ne partent pas en vacances. Et pour plein de personnes, en fait, le départ en vacances, c'est contraint aussi pour des raisons financières. Et donc, il s'agit de partir dans l'hébergement non marchand dans la famille parce que de toute façon, on n'a pas le choix.
Et quel est l'impact aujourd'hui, parce que le tourisme a évolué, les vacances ont évolué, quel est l'impact aujourd'hui des plateformes, des réseaux sociaux sur le tourisme ?
Alors, ça dépend de quelle plateforme on parle, mais en ce qui concerne, par exemple, les réservations pour les locations, locations temporaires, ça a un impact énorme puisque avant il y avait l'hébergement marchand, l'hôtel, les campings, et puis l'hébergement non marchand, la famille, les amis. C'est devenu une espèce d'entre-deux. Donc il y a toutes sortes de plateformes, mais donc les gens vont pouvoir aller dans des endroits où ils n'allaient pas ailleurs en habitant chez l'habitant. Sauf que ça, ce qui change, c'est qu'il y a une professionnalisation de cette plateforme qui deviennent des concurrents finalement de l'hôtellerie. Donc ça a des effets sur la structuration, l'offre, mais aussi là où on va loger par exemple quand on est dans des stations. Ça pose des problèmes énormes pour les saisonniers par exemple, puisque là où ils étaient hébergés d'habitude, c'est des appartements qui vont être mis en location pour les touristes. Du coup, il y a plus de place pour les travailleurs du tourisme.
Et oui, ça influe vraiment sur l'offre.
Ça influe sur l'offre.
Et sur la décision ?
Alors, sur la décision, après, ça dépend encore une fois. Il y a beaucoup de gens, c'est certaines catégories sociales qui vont utiliser, par exemple, ces plateformes locatives, ouais. Même si ça commence à se répandre. Mais effectivement, par exemple, si vous êtes une famille avec trois enfants, aller à l'hôtel, c'est hors de prix. Donc, soit vous allez dans un camping, soit vous avez vous pouvez louer un gîte ou quelque chose. Le fait de pouvoir, par exemple, aller en ville, louer un appartement, c'est accessible. Du coup, par exemple, les villes européennes deviennent accessibles pour les familles, ce qu'elles n'étaient pas avant, parce que aller à l'hôtel avec une famille, c'était impossible. Donc, vous voyez que là, ça change aussi les possibilités de destination pour les familles, parce que l'hôtel a été pensé, en gros, pour des hommes d'affaires. Des hommes seuls qui travaillent, et oui. Rarement pour des familles.
Ce que je veux dire par là où je veux en venir aussi, c'est aujourd'hui, on donne son avis sur tout, sur les réseaux sociaux, et on a les offices de tourisme qui proposent, et est-ce que ça a un impact sur le tourisme ? C'est-à-dire ces gens qui, on note les lieux où on va.
Alors ça a un impact en termes exponentiel plutôt que de choix de destination. C'est-à-dire, moi, on a travaillé sur ce qu'on appelle le big data, on regarde les données, on regarde les cartes de densité, on travaille sur des millions de commentaires, de photos, etc. Ce qu'on voit, c'est que c'est rarement un lieu d'invention, la destination.
C'est l'inverse.
C'est en fait, ça renforce des lieux qui existent déjà. TripAdvisor ne va pas découvrir l'endroit, le petit restaurant incroyable, jamais, en fait. Mais par contre, ça va renforcer des lieux qui sont déjà découverts. Donc il y a un phénomène mimétique qui est propre au tourisme et qui va être accéléré par les réseaux sociaux, par Instagram, les photos, etc. Instagram n'invente pas des paysages. Instagram, c'est une façon de, en fait, à force de répéter à l'infini la même photographie, va faire que des lieux vont devenir de plus en plus peut-être fréquentés, vu, imaginer, mais ça ne n'invente pas des lieux.
Saskia Cousin, très rapidement, le tourisme de demain, c'est un peu rapidement, si on peut condenser.
À mon avis, ça va être très paradoxal parce qu'il y a toutes sortes de gens qui vont tenter de se relocaliser pour plein de raisons économiques, climatiques, etc. Et en même temps, il y a une forme de globalisation totale du tourisme où l'ensemble de la Terre, l'ensemble des humains cherchent à eux aussi à accéder aux vacances et au tourisme et ils en ont bien le droit. Et
c'est un énorme terrain de recherche. Merci beaucoup Saskia Cousin d'avoir été l'invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Bertrand Réau de Sociologie du tourisme aux éditions La Découverte.